Bonjour à tous, bienvenue dans Culture Monde, votre magazine international que vous retrouvez du lundi au vendredi. On est ensemble jusqu'à midi. Émission réalisée ce matin par Alexandre Fougeron et mise en onde par Alex Dang. Deuxième temps de notre semaine consacrée à la nostalgie, cette variation du deuil, l'expression est de l'historien des idées Jean Starobinski. Il est notre maître à penser toute cette semaine.
Parmi les signaux qui peuvent accentuer la nostalgie se trouve la musique. C'est à partir de 1710, C'est pas chez Hofer, qu'il est question du fameux rang des vaches, de ces mélodies des bergers qui accompagnent les vaches à l'alpage, le rang des vaches, Kuhereien en allemand, et qui éveille ce sentiment. Et souvenir ou légende, on déclare que Louis XIV ou ses ministres avaient fait interdire aux troupes suisses de faire jouer cet air, parce que c'était le signal d'un déclenchement de nostalgie irrésistible et cela pouvait causer des désertions ou des dépressions catastrophiques.
Jean Starobinski dans la fabrique de l'histoire d'Emmanuel Laurentin, c'était en 2006. Aujourd'hui, on verra comment la nostalgie irrigue tous les domaines de la société, de la politique à la pop culture. Rétromania, quand le passé gouverne le présent, c'est notre sujet ce matin.
Je vais voter Trump. Je ne suis pas raciste, je ne suis pas pitoyable. Je veux qu'on me rende mon pays, comme il était dans les années 80. Qu'on me rende le rêve américain.
I want the dream back. Make America great again. A vote for Trump is where it begins. We'll be walking tall and talking proud like one time we did when Donald makes America great again.
You know, it's time to put the
Vous savez, il est temps de retrouver la fibre patriotique. Qu'on aime Trump ou non, je pense qu'il est l'homme qui peut nous remettre sur les rails et rendre à l'Amérique sa grandeur.
To make it America great again. And you know, we had
On avait des valeurs dans le temps. On était fiers d'être américains.
Je suis avec vous, le peuple américain. On va refaire de l'Amérique un pays riche. On va refaire de l'Amérique un pays fort. On va refaire de l'Amérique un pays sûr. Et vous savez quoi? On va rendre à l'Amérique sa grandeur.
Thank you, everybody. And he'll make America great again.
Again, c'est peut-être le terme le plus utilisé par Donald Trump pendant sa campagne. Le nouveau président des États-Unis qui promettait de ramener les emplois dans l'industrie, de ramener la production d'acier et de charbon sur le sol américain, de ramener l'ordre et la loi dans les villes, a su surfer comme personne sur la vague de nostalgie qui traverse la société américaine. Selon une enquête du Public Religion Research Institute, 74% des WASP, les protestants blancs, estiment que les États-Unis n'ont cessé de se dégrader depuis les années 50. Car c'est bien sur cette nostalgie que s'appuie Trump, celle d'une culture où le mâle blanc était dominant, avant que la ceinture des usines du Nord-Est devienne la ceinture de la rouille, avant la montée en puissance de ce qu'il appelle l'égalitarisme et du féminisme. Aujourd'hui, la nostalgie est partout, dans les brocantes et les friperies, chez les amateurs de meubles, d'aliments, de tourisme authentique et dans les éternelles rééditions des groupes de rock des années 50. Alors, comment comprendre ce regret d'un passé largement fantasmé, romantisé? Cette rétromania est-elle le nom d'une panne d'utopie, de futur possible? La nostalgie serait-elle, pour reprendre l'expression du philosophe Vladimir Yankelevitch, une réaction contre l'irréversible? Avec nous pour en parler en duplex de Bruxelles, David Berliner, bonjour. Vous êtes anthropologue, professeur à l'Université libre de Bruxelles. Et vous avez coordonné avec Olivia Anger un numéro de la revue d'anthropologie Terrain qui est entièrement consacré à cette question de la nostalgie. Pourquoi avoir choisi ce thème ?
Ah, parce que c'est un thème qui est d'une actualité brûlante, comme vous l'avez dit dans votre description, aussi bien d'un point de vue politique et d'un point de vue des grands récits politiques qui peuvent utiliser la nostalgie et l'instrumentaliser à des fins électorales que dans les micro-détails de notre vie quotidienne où se logent des pratiques nostalgiques qui sont très à la mode aujourd'hui dans les sociétés occidentales, pas seulement occidentales d'ailleurs, parmi les élites internationales, on retrouve beaucoup de cette posture nostalgique contemporaine.
Vous écrivez dans l'introduction de ce numéro de la revue Terrain, David Berliner, que c'est la nostalgie, en quelque sorte, qui aurait donné naissance aux sciences sociales. Qu'est-ce que vous voulez dire par là ?
Ah, là, vous c'est un petit peu caricatural, je pense, mais je pense que la nostalgie est un sentiment qui a joué un rôle fondamental dans la constitution des sciences sociales. Pas uniquement, mais je pense qu'il y a un sentiment nostalgique qui est à la base de la fondation, notamment de l'ethnologie et de la sociologie, qui est, je peux parler de l'ethnologie en particulier, puisque c'est ma discipline, qui est une nostalgie pour le primitif. C'est-à-dire ce regard, ce lamento,
ce regret pour des sociétés qui étaient perçues comme en voie de disparition, comme menacées par, à l'époque, le colonialisme, les religions importées, etc. Et il y a cette image nostalgique qui imprègne les sciences sociales depuis leur origine, et qu'on retrouve aussi en sociologie, ou chez les pères fondateurs de la sociologie.
Avec Durkheim, la critique de la société industrielle
Weber,
émergente.
Exactement. Où la société traditionnelle, la petite société dite primitive, est un miroir à travers lequel on peut appréhender la modernité et les ruptures de la modernité. Pardon.
À quel moment, David Berliner, la nostalgie est-elle devenue un sujet d'étude à part entière, en tant que telle ? Est-ce que vous m'entendez, David Berliner ?
Je vous entends. Je n'ai pas entendu votre question.
Je vous demandais à quel moment la nostalgie est devenue un sujet d'étude à part entière.
Alors, elle est devenue un sujet d'étude quand les anthropologues, les sociologues, les historiens et les philosophes, mais aussi les psychanalystes, ont commencé à s'intéresser à la mémoire de manière plus approfondie, je dirais, dans les années 70 et 80. Dans le domaine des sciences sociales, il y a une anthropologie, une sociologie de la nostalgie qui s'est développée à partir de ce moment-là, dans les années 70. Bien que on voit des intérêts pour la mémoire déjà depuis la fin du 19e siècle du côté des psychanalystes, des historiens et des historiens.
La nostalgie d'aujourd'hui fait écho à celle que les peuples européens ont commencé à ressentir au 19e siècle avec l'industrialisation rapide et l'urbanisation qui a suivi. À cette époque, elle est encore considérée comme une maladie. Je rappelle que c'est le médecin suisse Johannes Hofer qui a inventé ce mot de nostalgie. Il désigne d'abord le mal du pays, puis le progrès rapide entraîne une nouvelle forme de nostalgie proche de celle que l'on connaît aujourd'hui. Une nostalgie qui serait davantage liée à la peur de la modernité, David Berliner ?
Oui, ce que vous dites est extrêmement intéressant. Il y a une histoire de la nostalgie qui est passionnante à faire et je suis très heureux que vous ayez commencé l'émission avec Starobinsky, qui est vraiment un de nos mentors dans ce domaine. Il y a un processus qui commence avec une médicalisation de la nostalgie, comme vous le disiez, Johannes Hofer au XVIIe siècle, qui considère que...
Ah, je crois qu'on vient de vous perdre, David Berliner. Est-ce que vous m'entendez? Je crois qu'on vient de perdre la ligne. Alors, David Berliner. Oui, on va essayer de récupérer la ligne avec
oui,
Bruxelles. Ah, pardonnez-moi, on ne vous entendait plus. On vous écoute.
Est-ce que vous m'entendez ?
Maintenant, très bien.
D'accord. Donc, c'était cette nostalgie qui était de type géographique, la nostalgie de l'exilé. On voit en France, avec la Révolution française, une temporalisation de cette notion de nostalgie qui devient un sentiment également temporel, le regret d'un temps perdu qui n'est plus simplement un temps, un lamento sur un pays lointain. Non, c'est un lamento sur un temps qui est passé, un constat douloureux de l'irréversibilité de la temporalité et du fait qu'on ne pourra pas y retourner. Et c'est cette nostalgie-là, c'est cette nostalgie qui est inscrite dans une dimension temporelle, qui est celle qui domine aujourd'hui nos sociétés et qui, à mon avis, est principalement lié aujourd'hui à la question de la mondialisation. C'est-à-dire qu'on n'est plus dans une nostalgie qui était celle de la critique de la modernité celle des anthropologues ou des sociologues du début du XXe siècle, mais aujourd'hui c'est véritablement une critique de la globalisation et du risque que la globalisation apporte à la persistance de formes de vie, de pratiques sociales, culturelles, de savoir-faire, etc., etc. Donc là, c'est vraiment une réaction contre ce bulldozer de la mondialisation qui est vu comme irréversible.
Mais alors, au XIXe siècle, c'est déjà une peur de la perte qui lance ce grand mouvement de patrimonialisation, de muséification parmi les élites européennes. On a le déploiement d'une conscience patrimoniale en France qui a été abondamment commentée par l'historien Pierre Nora. Le musée, tout comme le récit national, ont pour charge d'établir ce qui constitue le passé et d'en tracer les limites.
Tout à fait. Je dirais que ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'on voit une appropriation par les individus eux-mêmes au niveau très individuel. Il y a une démocratisation de cette conscience patrimoniale qui fait qu'elle n'est plus réservée aux musées, aux États-nations qui seraient en charge de ces actions patrimoniales, de la préservation du passé et face à l'industrialisation et l'urbanisation. Aujourd'hui, on voit que les individus eux-mêmes s'approprient ces pratiques nostalgiques dans toute une série de pratiques quotidiennes, que ce soit le vintage, le succès des écomusées, les antiquités, le succès des marchés aux puces, les accouchements naturels, la nourriture bio, et j'en passe, et même Instagram, parce que si vous pensez bien, Instagram, c'est la technologie par excellence de la nostalgie, c'est prendre une photo au présent, mais qui a l'air immédiatement passé. Donc la nostalgie a même été jusqu'à envahir les techniques, les nouvelles technologies de l'information.
Oui, vous le dites, les objets sont des vecteurs privilégiés de la nostalgie, ce qui explique cette explosion de la commercialisation du passé dont vous parlez et qui est visible notamment dans la pop culture. À quand remonte-t-elle, selon vous, cette commercialisation de tout ce qui porte la trace du passage du temps ?
Ah, cette commercialisation, elle est récente, elle est liée au néolibéralisme et de nos sociétés, je dirais des années 80, mais le rapport à l'objet nostalgique, ça c'est une question très ancienne. Pensez à la Madeleine de Proust, à ce qu'elle suscite lorsque le héros de Proust sent et voit cette Madeleine et la croque et toute cette nostalgie pour cette jeunesse qui a combré, qui l'emplit d'un sentiment très étrange et agréable et désagréable à la fois. Et ce rapport aux objets, il est très ancien. La littérature est pleine de références à ces objets nostalgiques. Je vous invite d'ailleurs à réfléchir au propre. Vous avez certainement, vous aussi, un objet qui, immédiatement, peut déclencher des souvenirs de type nostalgique qui sont très particuliers par rapport aux autres types de souvenirs, qui sont des souvenirs non nostalgiques. Mais il se fait que le business, en quelque sorte, le monde de l'entreprise, s'est réapproprié dans les années 80, fin des années 70, début des années 80, cette figure nostalgique aussi comme un instrument de vente. Et ça, vous le voyez très bien aujourd'hui, c'est que on a toute une série de formes du passé, d'images et de pratiques du passé qui sont utilisées par le néolibéralisme pour mieux vendre. C'est assez d'ailleurs ironique, paradoxal, je dirais, de voir que des entreprises néolibérales utilisent un dispositif qui bien souvent a été édifié pour les critiquer. Mais enfin,
c'est assez ironique.
C'est souvent le cas. C'est assez ironique. Pensez au succès de cette petite voiture. Je ne sais pas si je peux citer la marque, de cette petite voiture, la Fiat 500, dont la marque s'est réemparée et qui a un succès incroyable, pas spécialement chez des gens qui sont nostalgiques. Donc, ce qui est intéressant, c'est de voir là qu'on est confronté à une non pas à un sentiment nostalgique, mais à une mode nostalgique qui peut être totalement séparée de sentiments et de souvenirs vécus soi-même. On est juste pris dans une mode nostalgique, le succès des Fiat 500, le succès de certaines images, de toute cette esthétique vintage au cinéma et dans les séries télévisées, qui sont des outils commerciaux, alors là, pour le coup.
Vous avez défini la nostalgie comme une réaction à l'accélération produite par les effets de la mondialisation. On pense par exemple au grand retour aux valeurs traditionnelles, jugées par certains plus vraies, plus authentiques que celles que propose la société actuelle. Pour autant, est-ce qu'il faut considérer nécessairement la nostalgie comme un anti-modernisme, David Berliner ?
Je ne pense pas. Je pense qu'il y a un ingrédient spécifique à ces nostalgies que nous pouvons observer aujourd'hui, qui est cette idée qu'il y avait quelque chose d'unique et d'irremplaçable dans ce passé qui est bien souvent fantasmé et idéalisé. Et que, vu que nous sommes humains et que la temporalité est irréversible, on est face à cette irremplaçabilité de ces valeurs qui sont fantasmées bien souvent. Je pense que là, on est les ingrédients fondamentaux de cette nostalgie qui est ce retour à quelque chose qui était perçu comme unique, authentique, chaleureux, et j'en passe. Ce qui est... j'ai déjà oublié votre question. Je viens de m'en...
Est-ce que c'était un antimodernisme ?
Parce que non, selon pas Jean... toujours, parce que vous pouvez très bien... Vous pouvez très bien vous rendre compte que dans votre nostalgie quotidienne, vous n'êtes pas pour autant un vieux réactionnaire parce que tout d'un coup, vous avez une émotion qui est de type nostalgique. Il y a d'ailleurs des psychologues britanniques qui ont travaillé sur la nostalgie et qui ont montré que les gens qui ont une culture de la nostalgie, donc individuelle, qui retournent de temps à autre vers ce passé chaleureux vécu, sont des gens qui sont moins susceptibles d'être dépressifs que les autres. Donc je pense que la nostalgie, pour autant qu'elle soit bien cultivée et non pas instrumentalisée autour d'un passé fantasmé, idéalisé, qui peut se révéler dangereux, et parce qu'il souvent il véhicule aussi une rhétorique de la discrimination et de l'exclusion, je pense que la nostalgie peut être un sentiment tout à fait connecté au présent, sain et...
Il y a donc une bonne nostalgie.
Bon pour la santé.
C'est ça, il y a une bonne nostalgie, David Berliner.
Oui, tout à fait, il y a une bonne nostalgie. C'est cette nostalgie qui est une nostalgie qui est réflexive en quelque sorte, donc qui est réflexive sur les conditions mêmes de sa propre nostalgie, et qui se rend compte que la nostalgie, c'est souvent un sentiment qui peut être déformant, qui peut être à géométrie variable, qui peut être instrumentalisé par des entités sociales et politiques. Et donc, il y a une nostalgie saine qui est celle de vous replonger dans des moments où vous êtes dans ces douces rêveries, où vous pensez à votre enfance, certains moments qui étaient agréables, mais qui ne veut pas dire pour autant que vous veuillez retourner à cet état-là. C'est juste une douce rêverie de cette enfance perdue.
Oui, la nostalgie n'est pas nécessairement tournée vers le passé. L'espérance, écrivez-vous, n'est jamais bien loin du lamento sur la perte.
L'espérance, en effet, il y a une tension dans le sentiment nostalgique entre le passé et le futur. On ne peut pas dire que la nostalgie, ce soit uniquement un sentiment passéiste, parce que cette manière de se retourner vers le passé s'inscrit souvent dans un horizon d'avenir. Vous pouvez penser à une série d'exemples. Quand vous voyez aujourd'hui ces nostalgiques indignés qui veulent retourner à un certain type d'agriculture, à certaines pratiques très locales, eh bien, ça s'inscrit aussi dans un projet futur de société. C'est une nostalgie militante, indignée, mais qui s'inscrit aussi dans un désir de transformer, de changer, de critiquer. Il y a une anthropologue américaine qui dit que la nostalgie, c'est parfois une arme. Et je pense que la formule est tout à fait juste, c'est que la nostalgie, c'est aussi, parfois, un sentiment qui peut être politisé à des fins de transformation sociale et donc produire des effets très réels.
On parle de nostalgia bait en référence au clickbait, cette pratique d'appât à clic par le biais de titres racoleurs. Est-ce que la nostalgie pourrait être devenue racoleuse ? On voit sa présence très importante dans la pop culture.
Je dirais extrêmement racoleuse. On vit à une époque où il y a une telle crainte de ce que déjà Musil appelait l'accélérationnisme au début du XXe siècle. Il y a une telle crainte de ces transformations sociétales que nous voyons comme étant majeures, que la nostalgie est devenue effectivement un sentiment auquel nous nous identifions extrêmement et qui donc fait vendre. Et je ne suis pas étonné que du succès social et politique de la nostalgie, bien que dans bien des cas, les individus eux-mêmes ne soient pas conscients qu'ils sont en train d'être pris dans un dispositif nostalgique et parfois ne se sentent pas nostalgiques eux-mêmes non plus. Hein. Ce sont parfois des trucs commerciaux.
On va accueillir un nouvel invité, David Berliner.
Le monde court à sa perte. Le drapeau de l'Empire flotte dans toute la galaxie.
Le 16 décembre, aux États-Unis, sortait en salle Rogue One, Star Wars Story, le tout premier spin-off de la célèbre saga. Résultat, un énorme succès pour les studios Disney, qui ont enregistré des recettes historiques. 7 milliards de dollars de recettes cumulées sur l'année 2016, avec un épisode qui ne cesse de se référer au passé de l'épopée galactique. Si l'on ajoute à cela l'engouement pour les vinyles, les reformations, les remakes, les rééditions, on a le sentiment légèrement nauséeux d'un éternel recyclage. La pop culture serait-elle hantée par son passé? Clément Salzar a posé la question à Jean-Marie Potier, rédacteur en chef de Slate.fr et auteur entre autres de Indie Pop 1979-1997, paru en 2015 aux éditions Le Mot et le Reste.
Le cas de Rogue One est vraiment un bon exemple de la nostalgie à l'œuvre dans la culture populaire, parce que c'est présenté justement comme quelque chose de pas nostalgique par ses créateurs, ses promoteurs, qui nous disent « Regardez, on a fait une série B à partir de Star Wars dans un univers avec des personnages différents, on s'inscrit pas dans l'univers traditionnel. » Et en fait, quand on voit le film, on se rend compte qu'ils sont obligés de ranimer les fétiches des films originels, voilà, comme pour se rassurer vis-à-vis du public. Donc en fait, on nous vend quelque chose en disant « C'est pas nostalgique du tout. » Et quand on voit le film, on se rend compte qu'en fait, on nage en plein dans cette nostalgie-là. Je pense à quelque chose que par ailleurs moi je trouve pour l'instant assez affreux, mais qui est la recréation d'artistes disparus. On en a vu deux exemples récemment. Il y a l'exemple justement de Rogue One, Star Wars, avec un acteur décédé qui a été recréé quasiment de toutes pièces. Et on a un autre exemple avec la multiplication des concerts avec des hologrammes d'artistes disparus. Pour l'instant, je trouve ça affreux. Mais est-ce que c'est impossible de dire que dans le futur, quelqu'un ne va pas réussir à partir de ce postulat-là à créer une nouvelle forme artistique qui va produire quelque chose de génial? Enfin voilà, on ne peut pas le dire.
Donc vouloir à tout prix voir en 2016 Tupac sur scène, c'est pas nécessairement signe que plus aucun artiste n'est capable, contemporain n'est capable de faire rêver ou de faire vibrer.
Alors moi j'aurais du mal à défendre le fait de vouloir voir Tupac sous forme d'hologramme sur scène, quand même, parce que comme je disais, pour l'instant je trouve ça affreux, mais peut-être effectivement un jour quelqu'un réussira à en tirer une forme artistique intéressante.
Le livre d'un journaliste musical qui s'appelle Simon Reynolds, c'est Retromania, comment la culture pop recycle son passé pour s'inventer un futur. C'était paru aux éditions Le Mot et Le Reste. Et il prenait en exemple dans ce livre celui d'une rediffusion d'un concert mythique de Nirvana, donc 10 ans après, où il écrit que jeunes et vieux sont restés bouche bée devant un spectacle de 92 qui a fait trembler le monde. C'est du temps mort, écrit-il encore, c'est le temps de la répétition et de la simulation. C'est une critique assez acerbe quand même, le temps mort, le temps de la répétition et de la simulation.
Je suis en bonne partie d'accord avec l'analyse de Simon Reynolds qui est vraiment passionnante. Elle me semble quand même un peu sévère, c'est-à-dire que quand il parle de temps mort, on peut peut-être aussi dans ce cas-là dire après qu'il y a un temps de la résurrection, on va dire. Parce que moi ce que je trouve intéressant, c'est qu'il dit que un public de deux générations différentes reste bouche bée devant une vidéo de Nirvana, mais justement, en ce cas, la question qu'il faut se poser, c'est pourquoi deux générations différentes sont bouche bée. C'est-à-dire, par exemple, je sais pas, quelqu'un qui a 20 ans aujourd'hui, qui regarde le clip de Smells Like Teen Spirit sur YouTube et qui trouve ça génial. Pourquoi il trouve ça génial? Qu'est-ce que ça touche en lui? Quel corps sensible ça touche en lui? Ou quel sentiment de révolte vis-à-vis de la société ça touche en lui? Voilà, c'est aussi ça les questions qui sont intéressantes à se poser.
Et donc, par ailleurs, Simon Reynolds parlait là, je crois, d'une rediffusion télévisée. Donc, à l'heure d'Internet, YouTube en tête, est-ce que cette ère du temps mort, elle est d'autant plus présente puisque YouTube rend encore plus accessible les entrailles de la musique, hein, nous permet de ressortir des pépites, de écouter, de télécharger des vieilles chansons, new wave ou de vieux rock psychédélique? Est-ce qu'on muséifie plus que jamais à l'heure de la musique dématérialisée, ce qui paraît un peu contre-intuitif?
Ce qui est sûr, c'est que la musique dématérialisée change notre rapport à la nostalgie. Avant, ça pouvait être un rapport plus imaginaire, plus fantasmé peut-être, parce que effectivement, c'était se souvenir d'un feuilleton télévisé vu dans son enfance, qu'on n'avait jamais revu depuis, qui n'existait peut-être pas en cassette ou en DVD, et voilà, dont on avait seulement le souvenir gravé dans le cerveau. Aujourd'hui, effectivement, ça va être beaucoup plus facile de retrouver cette œuvre-là, ou par exemple ce clip d'une chanson, en deux clics sur YouTube. Donc, on est passé d'une nostalgie fantasmée à une nostalgie qui est plus boulimique, on va dire. Après, ça crée aussi des effets intéressants, c'est-à-dire que maintenant, il est possible, sur une thématique, par exemple, de trouver 10 œuvres d'époques très différentes en 5 minutes, de les regarder très rapidement et justement de se les approprier. Donc ça crée aussi un effet de surabondance qui est assez intéressant. Clairement, dans la musique actuelle, il y a une musique très référentielle. Il y a un nouveau groupe, par exemple, qui fait pas mal parler de lui, qui s'appelle les Lemon Twig, qui produit une musique psychédélique, vraiment qu'on croirait de l'époque des années 60 ou des années 70. Après, la musique a toujours été référentielle et a toujours été guidée par un sentiment de nostalgie, y compris pour des choses qui aujourd'hui nous paraissent être des ruptures historiques. Par exemple, le punk, pour nous aujourd'hui, c'est une rupture dans l'histoire de la musique. À l'époque, c'était considéré comme du heavy metal mal joué. Ou le courant glam du début des années 70, aujourd'hui, c'est considéré quand même comme une étape, une date un peu dans l'histoire. À l'époque, c'était des gens comme Bowie, justement, qui étaient fascinés par les musiciens des années 50, ou par le cabaret, par l'imagerie des années 30. Donc, la musique populaire est quand même aussi un perpétuel art du recyclage. Alors, parfois, il y a un nouvel instrument qui apparaît, ou une nouvelle forme qui apparaît, mais c'est pas non plus si fréquent que ça.
Simplement, pour finir, en 2017, il y a un énorme événement pour nombre de fans de Lynch et de la série Twin Peaks. Donc, Twin Peaks, la série de Mark Frost et David Lynch, il y aurait une troisième saison. Là, c'est dangereux, selon vous, ressortir de cette série culte des années 90.
Alors, le retour de Twin Peaks, c'est un très bon exemple de défi que pose justement la nostalgie à une œuvre, parce que Twin Peaks, donc, ça date de 1989-90. Donc, il y a une époque où la diffusion, la culture n'était pas du tout celle d'aujourd'hui. C'était quand même déjà une série très influencée dans son visuel, dans son univers, par les années 50, les 50s américaines. Donc, c'était les années 50 vues depuis les années 80. Donc, en 2017, ça va être 2017, mais vu justement à travers quel prisme, c'est ça qui va être intéressant, parce que Lynch, dans toute sa carrière, était quand même toujours fasciné par les années 50. On le voyait encore dans Mulholland Drive, qui était un film qui déroulait à l'époque contemporaine, mais qui était quand même très influencé par ce visuel-là. Donc voilà, une des choses intéressantes à voir, ça va être justement de voir, est-ce qu'il y aura toujours cette espèce d'effet étrange temporel de fascination pour une autre époque, à notre époque. Donc le retour de Twin Peaks aujourd'hui est propulsé par une très forte nostalgie, et la question c'est de savoir si, comme Star Wars, les créateurs de la série vont un peu paresseusement céder à cette nostalgie, c'est-à-dire en multipliant les clins d'œil aux personnages de l'époque un peu lourds, ou voilà, les clins d'œil aux spectateurs, ou s'ils vont réussir à justement renouveler la série en en faisant vraiment une œuvre contemporaine. Ce qui explique, je pense, que la série sera attendue à la fois avec autant d'impatience que d'appréhension par les gens, c'est que on va vouloir y retrouver ce qui nous avait plu la première fois, mais en même temps, on veut pas non plus simplement en voir un remake. Donc c'est vraiment un dilemme assez compliqué à résoudre, je pense, pour ces créateurs.
Le générique de Twin Peaks par Angelo Badalamenti. Vous reconnaissez David Berliner ?
Oui, tout à fait. J'avoue avoir été un grand fan de Twin Peaks moi-même, de Star Wars et également. Et je suis assez intéressé par ce que votre interlocuteur disait juste à l'instant. Je dirais de mon côté que le constat est certainement beaucoup moins dramatique. Parce que je vois que, à travers, en tant qu'anthropologue, en tout cas, j'observe que cette nostalgie, elle produit des formes nouvelles, elle produit des nouvelles communautés d'individus, des nouvelles formes de liens sociaux. Donc la nostalgie, ce n'est pas que la mort ou le temps mort ou la taxidermie temporelle, si vous voulez, mais que si l'on croit dans la créativité de l'esprit humain et des sociétés humaines, eh bien on voit les formes se transformer, même avec la nostalgie. La nostalgie produit des formes nouvelles.
Et David Berliner, vous êtes également beaucoup intéressé au rapport que l'Occident entretient avec les reliques du passé, notamment chez les touristes, en quête de ce que vous appelez le tourisme d'authenticité. On voit que la nostalgie est à l'origine du choix de la destination touristique, David Berliner.
Ah là, c'est un sujet absolument passionnant. La nostalgie, clairement, est une forme émotionnelle qui joue un rôle dans toute une série de pratiques touristiques contemporaines. Et je peux vous donner une petite anecdote. Nous sommes devant un temple à Luang Prabang, au nord du Laos, il y a quelques années. Je suis à côté de trois touristes hollandais, et l'une s'exclame « Oh, regarde comme ces temples sont beaux, mais c'est quand même triste que les femmes dans le temple ne portent pas les jupes traditionnelles et que les gens ne sont plus habillés à la mode traditionnelle. » Ça, c'est quelque chose qu'on entend très souvent dans la bouche des touristes et qui est une nostalgie aussi pour le primitif, en quête d'authenticité. Et toujours avec ce discours très intéressant, vous allez peut-être, et les auditeurs aussi se reconnaître, parce que moi-même, je me suis reconnu dans ce discours-là, c'est qu'on a l'impression d'arriver trop tard. Trop tard, c'est l'adverbe même de la nostalgie, et c'est cette idée que, ou alors on arrive juste à temps. Il y a quelque chose dans le tourisme contemporain, le tourisme lointain pour ces contrées lointaines, qui est de l'ordre du « je suis heureux d'être là juste maintenant parce que dans 10 ans, la mondialisation aura tout foutu en l'air ». J'ai entendu cette phrase des centaines de fois au Laos, et c'est vraiment une disposition nostalgique que le touriste va performer dans certains contexte de son épopée touristique. C'est pas tout le temps, parce qu'il passe d'une activité à l'autre, mais il y a des moments nostalgiques dans l'aventure du touriste qui se manifeste à travers souvent une lamentation pour la perte culturelle des autres. On se lamente du fait que, oh, regarde ici, ils ont la télévision, donc ils perdent leur culture. Ici, ils ne portent plus les vêtements traditionnels, ils perdent leur culture. Regarde, il y a trop de touristes. Ce qui est vraiment la phrase du tourisme postmoderne par excellence.
Oui, donc on va chercher des lieux de plus en plus préservés, oui, ce que vous dites, de plus en plus absents, ou du moins on peut trouver, oui, effectivement, très peu de touristes absents à la modernité.
Oui, mais c'est un fantasme. C'est un fantasme qui fait partie de l'épopée touristique, qui est d'aller chercher. J'entends toujours ces touristes me dire, moi, je vais au nord. Je vais toujours plus au nord du Laos, comme si au nord, le nord représentait l'endroit où il y aurait moins de touristes, de l'authenticité, de la pureté, quelque chose de l'ordre de ces sociétés imaginées que d'ailleurs les médias véhiculent. Aujourd'hui, la culture populaire véhicule cette image de société isolée, préservée, et qui est vraiment un regard nostalgique sur ces sociétés, qui bien souvent ne sont pas nostalgiques elles-mêmes. C'est le regard de l'occidental sur ces sociétés-là, qui est un regard nostalgique, mais qui est aujourd'hui partagé par de très nombreux touristes et qui mènera, je veux dire, qui est préparé avant le voyage par toute une série de lectures, mais aussi de fantasmes, et qui aussi continuera à persister au retour en montrant les photos, en ayant ramené certains objets et en mettant en avant à quel point on a été dans des endroits isolés, préservés de la modernité. Il y a quelque chose de l'ordre d'une valeur fondamentale cherchée là par de nombreux occidentaux, pas seulement, par aussi par des élites asiatiques, quand ils se rendent dans des destinations lointaines et isolées.
Il n'y a pas que les touristes, David Berliner, qui s'intéressent aux vestiges du passé à l'étranger. Il y a aussi les experts. Vous avez travaillé sur les politiques patrimoniales au Laos et vous avez observé cette tension à Luang Prabang, donc l'une des villes les plus touristiques du pays, entre d'un côté les experts de l'UNESCO et de l'autre les habitants de l'ancienne cité royale. Les premiers cherchent, disent-ils, à sauver le patrimoine en imposant toute une série de contraintes, restauration de temples, régulation des petits restaurants, etc. Les seconds, eux, refusent d'être entravés en quelque sorte dans leur marche vers la modernité. Qu'est-ce que cette tension traduit, selon vous, David Berliner ?
Ah, c'est aussi un sujet que je trouve absolument passionnant. Et je vous invite à réfléchir à cette notion d'exonostalgie que j'utilise depuis quelques années, qui est ce sentiment de regret justement pour la perte des autres. C'est-à-dire ces discours et ces sentiments pour la perte des autres. Et je pense que beaucoup d'experts français qui travaillent autour du projet Luang Prabang, mais aussi dans beaucoup de bureaux régionaux de l'UNESCO, véhiculent cette exonostalgie, bien souvent, cette exonostalgie dont on pourrait dire qu'elle est patrimonialiste, c'est-à-dire c'est sauver la culture des autres avant qu'elle ne disparaisse à jamais. Et donc beaucoup d'actions patrimoniales, notamment à Luang Prabang où j'ai travaillé pendant quelques années, sont entreprises au nom du risque qui pèse sur ce charme nostalgique, sur l'idée que, je ne sais pas si vous avez déjà été dans cette superbe ville, de fait, qu'est Luang Prabang au nord du Laos.
C'est magnifique.
Qui est absolument magnifique, porteuse d'un héritage bouddhiste avec 34 temples, des maisons traditionnelles sur pilotis, aussi des maisons dites coloniales. C'est un lieu qui, dès le début des années 90, a été considéré par des experts français comme un lieu qui était désormais au risque menacé de disparition. Et donc, toute une série d'actions patrimoniales ont été mises en place, la reconnaissance par l'UNESCO en 95, qui mène à toute une série d'actions qui sont des actions nostalgiques, si vous voulez, de préservation. On ne peut pas transformer ces habitations comme on le veut. On invite les habitants à continuer à pratiquer certains rituels, etc., etc. Ce qui est intéressant, c'est de voir que cette nostalgie qui est déployée par les experts de l'UNESCO, mais aussi par des expatriés sur place, mais aussi par des Laotiens de la diaspora, et qui est appréciée des touristes, c'est une nostalgie plutôt indochinoise, hein, qui fantasme sur l'Indochine française. Vous y êtes allé, on a l'impression quand on se promène dans les rues de Luang Prabang de lire un roman de Marguerite Duras. C'est des couleurs pastel, c'est les ventilateurs, mais tout ça est créé pour donner, faire ressentir aux touristes cette émotion, cette nostalgie indochinoise, liée aussi à une certaine mystique bouddhiste. Et ce qui est intéressant, c'est de voir que, alors que se construit ce que j'appelle une communauté de pertes autour de la préservation de cette ville, eh bien, la plupart des habitants, eux, ne sont pas du tout dans cette logique nostalgique. C'est-à-dire qu'ils sont aussi nostalgiques à certains égards. Ils sont nostalgiques comme chez nous, les vieilles personnes sont nostalgiques du temps qui passe, etc. Mais eux voient surtout la patrimonialisation de leur ville comme une manière de prendre pied dans la modernité. Ils veulent plus d'avions, plus de touristes, des industries. Donc, vous avez des frictions fréquentes entre ces discours d'inspiration nostalgique et puis les pratiques et les discours des acteurs sur place, qui sont surtout des discours orientés vers la modernité, la modernisation, la mondialisation.
Mais ce que vous avez constaté, toutefois, David Berliner, c'est qu'on voit poindre l'éveil, alors contraint et forcé, mais d'une conscience patrimoniale chez un certain nombre d'habitants de Luang Prabang, une conscience qui est surtout orientée par les recettes du tourisme.
Oui, c'est souvent le cas, je pense, dans beaucoup de sites patrimoniaux, et notamment dans beaucoup de sites UNESCO de par le monde, c'est que les habitants du lieu souvent sont déconnectés de cette nostalgie patrimoniale des experts, ne s'identifie pas à ce qui est préservé, mais ont bien compris que la patrimonialisation produit des effets très réels au niveau économique, au niveau financier, et donc sont demandeurs de davantage de tourisme, même s'ils ne partagent bien souvent pas cette conscience nostalgique patrimoniale qui est celle des experts. Je peux vous donner juste un exemple, mais que vous pourriez appliquer à d'autres lieux patrimoniaux en France ou ailleurs, cette obsession des experts à préserver à l'authentique qu'on retrouve. Il faut préserver les temples de Luang Prabang en utilisant les matériaux anciens, les couleurs anciennes, etc., qui est une logique de préservation qui est tout à fait étrangère à la plupart de mes interlocuteurs laotiens de Luang Prabang, qui n'ont pas cette nostalgie pour l'authentique. Pour eux, un temple, oui, ça doit se préserver, mais que ce soit avec des couleurs acryliques bien clinquantes, dorées, etc., c'est encore mieux. Et donc là, on voit des frictions entre une certaine conception de la nostalgie et de l'authenticité, et puis les réalités locales vécues par les habitants.
On va revenir en France, justement, si vous le voulez bien, David Berliner. La nostalgie peut être motrice d'une réécriture du passé. J'aimerais qu'on écoute François Fillon.
Je suis profondément enraciné dans cette terre de France que j'aime plus que tout. À l'école, justement, j'ai appris que la France était grande, que son histoire était millénaire, qu'elle était la plus vieille nation européenne. Non, la France n'est pas née en 1789. Non, la France n'est pas passée de l'ombre à la lumière en 1981. Non, la France n'est pas coupable d'avoir voulu faire partager sa culture aux peuples d'Afrique, d'Asie et d'Amérique du Nord. Non, la France n'a pas inventé l'esclavage. La France, c'est 15 siècles d'histoire depuis le baptême de Clovis à Reims. La France, c'est la fille aînée de l'Église, et en même temps, c'est le pays des philosophes des Lumières.
François Fillon, alors candidat à la primaire de la droite, c'était le 28 août à Sablé-sur-Sarthe. Comment on explique, David Berliner, que la nostalgie se prête si facilement à une falsification de l'histoire ?
Alors là, ça fait peur. Par contre, et je me permets de le dire en étant belge, je ne suis pas français, donc je ne fais pas partie de vos débats hexagonaux. Mais là, cette utilisation-là de la nostalgie, elle est plutôt inquiétante. Autant je m'émerveille des petites utilisations quotidiennes de la nostalgie, je pense que cette nostalgie-là, quand elle est instrumentalisée politiquement, elle peut devenir dangereuse parce que elle est intimement liée à des questions identitaires, d'exclusion, une rhétorique de la culture et qui effectivement parvient à soulever des mouvements de masse qui fantasment un passé idéalisé, qui était un passé vu comme étant fait de solidarité, d'entraide, d'unicité, de chaleur, la chaleur de la tradition, etc., qui sont autant d'argumentations qui peuvent se révéler dangereuses parce qu'elles sont extrêmement excluantes, elles sont discriminatrices bien souvent, et qu'elles se fondent sur des récits historiques qui sont effectivement reconstruits politiquement. Et ce discours-là qu'on entend de François Fillon s'inscrit aussi dans toute une rhétorique décliniste qui est très à la mode, qui considère que la France, mais pas seulement, on entend ce même discours en Hongrie, avec Viktor Orban, on a entendu ce discours aux États-Unis avec Trump, mais c'est différent, mais qui est une rhétorique décliniste d'après laquelle une grande nation a existé et le travail de ces hommes forts, c'est ça, de ces hommes politiques forts, eh bien, va être de nous rapprocher de cette communauté idéalisée, avec tous les dangers que ça implique, parce que bien sûr, cette communauté idéalisée n'a jamais existé, et donc cet effort est voué à l'échec et mènera à des dangers politiques très réels. Donc je pense que il y a un danger à mobiliser aujourd'hui, d'une part une rhétorique de l'apocalypse, une rhétorique décliniste, qui consiste à dire que tout fout le camp, tout disparaît, on perd nos valeurs. Il faut vraiment se livrer à une analyse sociologique, anthropologique méticuleuse pour voir ce qui disparaît. Il y a des choses qui disparaissent, mais tout ne disparaît pas. Les choses se transforment, les sociétés se remodèlent. Je pense qu'on doit faire attention à cette rhétorique apocalyptique quand elle vient se mêler aussi à l'idée que c'était mieux avant. Il y avait un âge d'or des humains, du social, du politique. Là, ça commence, si je puis dire, à sentir mauvais.
Oui, cette instrumentalisation de la nostalgie en Europe, on va en parler dans un instant.
France Culture, Culture Monde, Tiffaine de Roquigny.
La nostalgie, cette chance inespérée, si l'on peut dire, pour les défenseurs en Europe d'une nation pure et préservée, préservée de la mondialisation et de l'influence des étrangers, accusée de corrompre l'identité nationale. C'est la rhétorique du Front National en France, du PiS en Pologne et de la plupart des partis politiques en Roumanie, où les élections législatives ont eu lieu le 11 décembre. Bonjour Catherine Durandin.
Bonjour.
Vous êtes historienne, professeure émérite à l'INALCO, auteure de nombreux ouvrages, et notamment de La guerre froide, parue au PUF en février dernier. Vous connaissez très bien la Roumanie et vous avez observé de près ces élections. Tous les partis politiques ont fait campagne pour le roumanisme, cette idéologie nationaliste qui s'appuie sur une vision idéalisée du passé. Les différents candidats ont également célébré l'orthodoxie triomphante, très influente sur les questions de société, dans un pays où 80% de la population est orthodoxe. Et pourtant, c'est une femme musulmane, Sevil Chaïdeh, qui a finalement été élue. Elle doit encore, sa candidature doit encore être validée. Comment comprendre ce paradoxe, Catherine Durandin ?
Bon, écoutez, d'abord, oui, c'est une femme et c'est la première fois qu'elle est nommée par le président Ioannis, qui lui est protestant, il nomme une musulmane comme premier ministre. Alors pourquoi et dans quelle ambiance ? L'ambiance, elle est étonnante, c'est que les socialistes sont revenus au pouvoir sur un thème national, assez souverainiste, pas vraiment anti-européen, mais laissant tout de même entendre que on est mieux chez soi, à frontières fermées, et qu'après tout, l'Europe n'a pas rapporté grand-chose. Et ce thème anti-européen a été dirigé contre le gouvernement précédent, qui était donc à la tête, avait un ancien commissaire européen roumain, marié avec une Française et ayant fait des études à l'étranger. Ça fait trop d'étrangers, trop d'Europe. Donc on en revient avec les socialistes à quelque chose qui est plus fait maison, à la maison, entre nous, tel qu'on se connaît, dans la lignée du socialisme qui se voulait tranquille et n'était pas, de Ion Iliescu, le premier président post-révolution de 1989. Alors cette musulmane, elle appartient à la minorité à la fois turque et tatare par ses parents en Dobruja, dans la région de Constanza, et elle est mariée avec un homme d'affaires syrien qui a été naturalisé roumain. C'est un pari très difficile. Je crois que le président a voulu éviter une crise, c'est-à-dire contrecarrer la demande du Parti socialiste qui vient de remporter les élections à 40%, éviter donc de ne pas accepter la candidature de cette femme qui est présentée par le Parti socialiste, pour ne pas avoir un conflit immédiatement entre la présidence et le Premier ministre, conflit que la Roumanie a connu en 2012 et qui avait été tragique. Maintenant, c'est un pari à haut risque pour en revenir au nationalisme et à la nostalgie, parce que dans un pays orthodoxe, avec des manifestations de respect vis-à-vis de l'Église, du patriarche, enfin, quelque chose d'assez tonitruant, avec une véritable influence sur les mœurs, puisqu'à l'heure actuelle, il y a un débat autour de faut-il autoriser ou pas, et comment, et peut-on s'y opposer, l'enseignement de la vie sexuelle à l'école, enfin, sous l'influence de l'Église orthodoxe. Donc je ne crois pas que ce pari tiendra très longtemps. L'affichage est joli, l'affichage c'est... En Europe, Roumanie européenne, on est tolérant, on a un président protestant appartenant à la minorité allemande et on a une première ministre musulmane appartenant à la minorité turco-tatare. Ça, c'est la belle histoire. La réalité, c'est que ce sont les cercles socialistes, leurs réseaux profondément corrompus qui tiennent les rênes en ce moment avec des bémols. Mmh. Je dirais qu'il y a des bémols à ce nationalisme et à ce socialisme. Mmh. Le bémol, c'est que seulement 40% des gens ont voté, que les jeunes ne votent pas, les 18-24 ans ont très peu voté, que ceux qui votent, ce sont les ruraux, les régions isolées, les villes pauvres, et qui votent, je dirais, avec un soupir de nostalgie.
Oui, c'est ça, une nostalgie. J'y aussi lié au fait que voilà, la Roumanie est gangrénée par la corruption, vous l'avez dit, à tous les échelons de la société. En novembre 2015, un incendie dans une boîte de nuit avait fait 64 morts, en cause d'une licence qui avait été octroyée alors que l'établissement n'avait pas de certificat de sécurité contre le feu. Le drame avait provoqué à l'époque la démission du premier ministre social-démocrate Victor Ponta. Cette corruption généralisée, c'est ce qui explique en partie, selon vous, Catherine Durandin, la nostalgie parmi la population d'une période communiste où les pratiques étaient sinon plus vertueuses, du moins plus dissimulée.
Disons que la période communiste manifestait une sorte de morale vertueuse, ne serait-ce que dans le tableau que donnait le couple Ceausescu, des gens qui s'étaient connus tout jeunes, qui étaient fidèles, qui s'occupaient bien de leurs enfants. Il y avait quelques problèmes avec le fils Nicu qui était alcoolique, mais enfin, dans l'ensemble, la belle image, c'était l'image de cette Roumanie traditionnelle et vertueuse. Très traditionnel, puisque Ceausescu, lorsque sa mère est morte, a tout de même appelé un pope pour bénir le cercueil de sa mère. Et ça avait été diffusé à l'image, je dirais. Donc la corruption, elle existait, les privilèges existaient, mais c'était caché, c'était non dit, et surtout il y avait un silence au niveau de l'information absolument radical. Moi j'ai le souvenir d'avoir lu à l'époque la presse communiste roumaine et le journal du parti, Scinteia. Les accidents, c'était à l'ouest. Les misérables, je me souviens d'un titre, les misérables sont à l'ouest. Et il y avait une queue, figurez-vous, devant le lancement de la pâtisserie boulangerie Paul. Évidemment, il y avait la queue. Et c'était sous-titré, les misérables sont à l'ouest. Il n'y avait pas d'accident en Roumanie, il n'y avait pas de crime. Et les gens ont eu l'impression que la pornographie, enfin tout ce qui était sale était apparu avec l'ouverture des frontières, la ruée vers l'ouest des années chaotiques 1990. Il faut ajouter quelque chose aussi qui est extrêmement simpliste et simple, mais qui me paraît juste, c'est que le vote âgé est nostalgique, mais il est aussi nostalgique de la jeunesse. Ces gens sont fatigués et finalement retrouvent des souvenirs heureux, des souvenirs brodés ou des souvenirs tout court de leur jeunesse.
Et les partis roumains, pardon Catherine Durandin, les partis roumains sont pas les seuls en Europe à s'appuyer sur ce passé, si on revient vraiment sur cette idée d'un passé idéalisé pour dénoncer la dilution actuelle de l'identité nationale. On pense à Viktor Orban, le très nationaliste Premier ministre hongrois, adepte de la grande Hongrie d'avant 1920. On l'écoute.
Aujourd'hui en Europe, il est interdit de dire la vérité. Il est interdit de dire que l'immigration ramène le crime et la terreur dans nos pays. Il est interdit de dire que les masses venues d'autres civilisations mettent en danger notre style de vie, notre culture, nos coutumes et nos traditions chrétiennes.
On l'entend, Catherine Durandin, Viktor Orban s'approprie l'idéologie du parti d'extrême droite, le Jobbik, ce parti qui défend l'identité magyare chrétienne supposée menacée par les Roms et les Tziganes, et plus récemment les réfugiés. Est-ce qu'il y a une nostalgie encore de la grande Hongrie parmi la population, Catherine Durandin ?
Elle est très forte, cette nostalgie. Elle est très forte au point que, elle est de longue durée, au point que je me souviens être allée à Budapest en 2000 et avoir vu sur un mur une carte de la Hongrie intégrant la Transylvanie roumaine aujourd'hui, roumaine depuis 1920. Et cette carte était une revendication de la Grande Hongrie d'avant la défaite durant la Première Guerre mondiale, que la Hongrie a payé assez cher avec le traité de Trianon de 1920, et qui a fait basculer le berceau de la nation, aux yeux des Hongrois, dans les frontières de la Roumanie, Transylvanie, que les Roumains considèrent comme le berceau de leur nation. Donc c'est quelque chose qui est de longue durée, et qui aujourd'hui alors prend une tonalité extrêmement redoutable. Mais je crois que ce redoutable, on le redoutait déjà dans les années 1990. On avait organisé pour essayer de pousser à la réconciliation ou à la à éviter des tendances d'hostilité entre Roumains et Hongrois, à leur faire des conférences sur le modèle de la réconciliation franco-allemande, etc., etc. Bon, il s'est passé que tous les deux étaient candidats à l'intégration dans l'OTAN et qu'ils ont été obligés de faire acte de tolérance à ce moment-là. Mais le discours de Orban est véritablement effrayant, et je dirais il est effrayant parce qu'il est mobilisateur physiquement aujourd'hui. Or ça n'existe pas en Roumanie. Il n'y a pas de chasse aux Tziganes en Roumanie. Il n'y a pas cette tonitruance. Il n'y a même pas un parti ouvertement extrémiste au Parlement. Parce que tout le monde ayant un discours nationaliste, ils n'ont pas de parti extrémiste. Le parti de la Grande Roumanie fait moins de 5%. Alors qu'en Hongrie, on a cette tendance, et cette tendance aussi, qui est assez peu honorable, je juge là, mais je m'engage, à accepter les subventions européennes quand elles conviennent, et à vouloir transformer la Constitution, ce qui est extrêmement grave, de la Hongrie, de telle manière qu'ils aient une sorte d'obéissance contractuelle à la carte, en fonction des données européennes qui leur conviennent, et lorsqu'il y a une législation européenne qui ne convient pas, ben ils ne l'appliquent pas.
Un grand merci, Catherine Durandin. On va devoir malheureusement enchaîner. Un grand merci, je rappelle, professeur émérite Aline Alco, auteur de nombreux ouvrages, et notamment de La guerre froide, paru au PUF en février 2016.
France Culture, Culture Monde, Tiffaine de Roquigny.
Nous parlons depuis le début de cette émission des manifestations modernes, voire postmodernes de la nostalgie. Mais comment constater avec un certain recul les possibles conséquences de cette fétichisation du passé ? On fait tout de suite un détour par l'Orient des orientalistes avec vous, Clémence Alzard. Bonjour.
Bonjour Tiffaine, bonjour à toutes et à tous.
Alors Clémence, pourquoi mobiliser un courant artistique vieux de 3 siècles pour nous parler de nostalgie ?
Eh bien parce que les orientalistes et les philosophes des Lumières avant eux, en consacrant l'exotisme de Salon, hein, on se souvient de la fameuse clé persane de Montesquieu dans ses lettres, eh bien les orientalistes aussi étaient manifestement de grands nostalgiques. D'abord une rapide définition, pour la version du Littré de 1860-70, donc autour de l'apogée du courant, l'orientalisme désigne l'ensemble des connaissances, des idées philosophiques et des mœurs des peuples orientaux. Quant à l'orientaliste, il s'agit de celui qui est versé dans la connaissance des langues orientales ou du peintre qui emprunte surtout ses sujets et ses couleurs à l'Orient. Pourtant, l'orientaliste n'a que faire de la véracité de ses écrits ou de ses peintures sur les peuples orientaux, mais en effet, au mieux, il emprunte ses sujets à l'Orient. Dès l'avènement de l'Orient littéraire, avec les Mille et une nuits, jusqu'aux Orientales de Victor Hugo, par exemple, l'Orient est poétique ou sensuel, mais surtout rassurant, car immuable, comme figé dans un passé idéal et idéalisé. Une sorte de havre de paix qui n'est pas en proie, lui, à une course effrénée au progrès, donc un Orient archaïque et aussi.
Que cherche l'occidental orientaliste en peignant cet Orient fantasmé ?
Il s'agit de se dépayser, de s'évader, mais c'est l'autre, l'antithèse par excellence que l'on va chercher. L'Orient, comme le note l'historien de la littérature David Vincent, représente ainsi le passé, la marge, l'état inférieur par rapport à l'Occident, qui lui est donc le mouvement, le progrès, le centre, par opposition à un Orient ignorant, barbare, immobile, sans perspective. Mais écoutons tout de suite Edouard Saïd, l'intellectuel américano-palestinien majeur, auteur de cet ouvrage qui a fait date, L'Orientalisme, l'Orient créé par l'Occident, dans lequel il dénonce justement et déconstruit ce regard de l'Occident sur l'Orient.
My question is can you...
L'orientalisme soulève une question centrale du fait des désignations qu'il a mises en place. Est, Ouest, Orient et Occident. Les types, les nationalités, prises au degré où elles ont été prises. Et je ne parle pas des généralités du genre « il est français, il ne peut pas comprendre le chinois ». Je ne parle pas de ça, je parle de l'étude approfondie de l'autre comme éminemment autre. Je parle de l'étude des circonstances du développement de l'orientalisme et de sa corrélation avec l'Empire. Donc ma question est, peut-on à la fois soutenir ce type de connaissance et l'humanisme ? N'est-elle pas profondément anti-humaniste, cette connaissance fondée sur la différence, l'infériorité, la soumission et l'aliénation de l'autre ?
Édouard Saïd, donc, extrait d'un long documentaire que lui avait consacré TV5 et Al Jazeera en 2002. Pour Édouard Saïd, il est évident que ces représentations suffisantes de l'Orient ont façonné les relations internationales contemporaines. L'Orient devenu lieu de nostalgie et patrie éternelle, dont le présent et la réalité finalement importent peu. Cet Orient peut bien être envahi, colonisé, ce bloc si pauvre n'auré d'humanité que s'il se fond dans le moule européen, sa philosophie et ses valeurs.
Édouard Saïd mobilise ces concepts englobants d'Orient et d'Occident, mais est-ce qu'il les oppose l'un à l'autre, Clémence ?
Absolument pas, Tiffaine. Et c'est parce qu'il a toujours refusé l'idée d'un choc des civilisations qu'Édouard Saïd s'insurgera inlassablement contre ces concepts d'Ouest et d'Est au nom de l'humanisme. Même si la guerre en Irak de 2003 aura peut-être eu raison de son optimisme, 25 ans après la publication de son ouvrage, L'Orientalisme, l'Occident s'arrogeait encore le droit d'aller civiliser l'Orient. Édouard Saïd mourra d'ailleurs la même année. Et si lui aura fait de sa nostalgie d'exilé palestinien aux États-Unis l'essence même de sa recherche, en inventant l'intellectuel exilique et son regard double, il passera sa vie à combattre une nostalgie née 3 siècles auparavant, de l'imaginaire d'un Occident déjà en pleine quête identitaire et qui aura fabriqué un Orient autre, radicalement autre.
Merci beaucoup Clémence Alzar et demain nous entendrons notamment l'ami de toujours d'Edouard Saïd, le poète palestinien Mahmoud Darwish, et c'est de nostalgie de l'exil justement dont il sera question. Un grand merci à tous nos invités, Catherine Durandin, Jean-Marie Potier, rédacteur en chef de Slate.fr. Et merci à vous, bien sûr, David Berliner, anthropologue, professeur à l'Université libre de Bruxelles, qui nous avait accompagnés toute cette semaine. Merci enfin à Clémence Alzar, qui a préparé cette émission avec Samuel Bernard, Juliette Gadeau et Camille Imbert. Et à Quentin Dickinson, le correspondant de Radio France à Bruxelles, ainsi qu'aux techniciens qui ont rendu ce duplex possible. À la réalisation ici à Paris, Alexandre Fougeron, et à la technique, Alex Dang. Demain, on parlera du spleen, cette maladie de l'exil.